C'est peut-être une des premières fois que dans l'évangile de Jean, nous entendons parler du défenseur, le paraclet. Et l'autre jour, lors de la retraite des confirmants adultes, notre évêque traduisait ce mot par ce qui illumine, ce qui permet de comprendre, ce qui éclaire. Et nous comprenons bien qu'avec la deuxième lecture que nous venons de lire, tout cela prend sens. L'agneau envoie son esprit, il envoie son défenseur, son paraclet, et tout s'illumine. Et tous ceux qui sont atteints par cette lumière peuvent comprendre et rendre témoignage de ce que cette lumière provoque en eux, chez eux. Dans la première lecture, c'est bien ce qui illumine, ce qui éclaire, qui va permettre au conseil des anciens de l'Église naissante de prendre la bonne et la décision la plus ajustée à l'ensemble des chrétiens. Il ne s'agit donc pas de prendre une décision à la majorité, qu'elle soit relative, absolue ou aux deux tiers. Ce n'est pas une élection et ce n'est pas un choix décidé par le plus grand nombre. En Église, ce n'est pas ce qui prévaut. Ce qui est important, c'est d'avoir le conseil le plus avisé et qui se permet d'être ajusté à l'Esprit de Dieu. Souvent, on a reproché à l'Église de n'être pas une démocratie. Et l'Église n'a pas à être une démocratie, puisqu'elle essaye de comprendre le langage de Dieu et de proposer à l'ensemble de l'humanité ce langage. Et ce langage n'est pas choisi par les hommes en fonction d'une majorité, quelle qu'elle soit. Et vous avez entendu comment les apôtres, avec les délégués de Antioche, prennent la décision la plus juste pour permettre à chacun de s'y retrouver dans cette communauté naissante. Il y a des chrétiens issus du judaïsme et qui ont donc à continuer à pratiquer les règles, la vie, la Torah, telle qu'elle est proposée. Et donc la circoncision doit continuer de se pratiquer pour les juifs, même s'ils deviennent chrétiens. Quant à ceux qui sont issus du monde païen à l'époque, et nous pouvons peut-être nous y retrouver là, dans ces personnes-là, il leur est demandé, vous avez remarqué, c'est très souligné, de s'abstenir des unions illégitimes. Vous voyez qu'à l'époque déjà, c'était dans les premiers niveaux de lecture et c'était au hit parade de ce qui était demandé aux membres de l'Église. Il faut croire que notre humanité est bien faible pour que déjà on parle de ça dans les livres saints de l'époque. Et puis, il y a d'autres éléments qui interviennent. S'abstenir des viandes en sacrifice pour les idoles. Il y avait effectivement beaucoup de sacrifices pour des idoles, pour les dieux païens, pour les dieux romains. Donc, on demandait aux chrétiens, même s'ils ne sont pas juifs, de s'abstenir de ces viandes-là. Et vous avez remarqué une troisième chose. S'abstenir des viandes non saignées. Ah, voilà quelque chose que nous avons abandonné allègrement. Peut-être nous faut-il retrouver quelque chose là, à vivre. S'abstenir des viandes non saignées, c'est-à-dire des viandes non égorgées, c'est-à-dire des viandes non halal, des viandes non cachères. Le chrétien, a priori, si on suit les recommandations de cette lettre, donnée par les anciens de Jérusalem à Antioche, nous, les chrétiens, nous devrions faire alors comme les musulmans et les juifs, consommer de la viande égorgée et saignée, vidée de son sang. Quel sens a cette relation au sang? Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est le cœur du souffle divin. Donc le sang, c'est sacré. Donc on n'y touche pas, on ne le consomme pas. Voilà le sens que cette relation au sang peut avoir pour ceux qui sont les témoins du livre des Actes des Apôtres. Je voudrais maintenant rejoindre l'Évangile. Parce que ce qui est lu en Église aujourd'hui pourrait prêter à confusion. Le début de l'Évangile tel que nous l'avons dans le lectionnaire dit « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples » et c'est souvent comme cela que sont introduites les lectures d'Évangile le dimanche ou en semaine lorsqu'on est en plein milieu d'un texte et qu'il faut bien l'introduire. Donc cette phrase-là est une introduction qui n'est pas dans la Bible. Parce qu'en fait, ce texte est tout simplement une réponse de Jésus à l'apôtre Judas. D'ailleurs, ce chapitre 14 de l'Évangile suit le lavement des pieds, la sortie de Judas, où Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié ». Et puis on a ce chapitre 14 où apparemment Judas n'est finalement pas sorti. Ce qui peut nous aider à comprendre que ce chapitre 14 est quelque chose qui rassemble des textes importants de Jésus que l'apôtre a voulu mettre là, à cet endroit-là de la vie de Jésus, mais qu'en fait c'est un regroupement d'éléments que Jésus avait pu donner comme enseignement avant, en Galilée ou en Judée ou en Samarie. Que se passe-t-il pour que nous ayons cette réponse de Jésus? Jésus avait dit « Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Ah, celui qui aime Jésus, le Christ, Dieu se manifestera à lui, Jésus le Christ se manifestera à lui. Et alors, du coup, Judas pose une question. Seigneur, qu'est-il advenu que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? On a l'impression que dans la question de Judas, il y a déjà une interprétation. Judas reçoit cette affirmation de Jésus, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Judas reçoit cette phrase pour lui-même et pour les apôtres. Nous. Alors, il ne met pas en jeu, il met en nous, en s'incluant dans le groupe, bien sûr, mais il se met dedans. Autrement dit, Jésus se manifeste à Judas. Il manque un peu de toupet, ce Judas, que de poser une question pareille, pourrions-nous dire. Mais quelle audace! Lui qui vient à l'instant, juste avant le repas, de le trahir pour de l'argent, voilà que maintenant il se met dans le groupe de ceux à qui Jésus va se manifester, dans sa gloire sous-entendu. Jésus veut dépasser cela. Jésus veut franchir une nouvelle étape en donnant toute la réponse que nous avons entendue. Certes, il y a tout ce petit champ lexical de la parole que Jésus apporte. Ce n'est pas la sienne, c'est celle du Père. Et si celui qui reçoit la parole, c'est qu'il aime Dieu, c'est qu'il aime le Christ. Et alors le Christ et Dieu viendront demeurer en lui. Oui. Oui, nous connaissons cela très bien. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort que Jésus enfonce comme un clou dans la tête de ses disciples. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ah. Jésus n'est pas là pour confronter des idées. Il n'est certes pas là pour opposer ceux à qui il se manifesterait en particulier, Judas inclus, et puis les autres qui n'y comprennent rien du tout. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Jésus a envie de rejoindre tous les hommes. Il ne veut pas de division. Il ne veut pas d'opposition entre les uns et les autres. On n'est pas au Parlement européen. Jésus veut la paix, mais pas n'importe laquelle. Il ne veut pas donner la paix que les hommes ont l'habitude de comprendre, pas à la manière du monde. Il donne la paix, la shalom, celle qui vient de Dieu. Et il veut entourer de cette paix tous ceux qu'il côtoie, tous les hommes, dans leur totalité, dans leur intégralité. Ainsi, que le cœur de ceux qui écoutent sa parole à l'instant ne soit pas bouleversé ni effrayé. Parce que c'est lorsqu'on est effrayé qu'on essaye de se protéger, de se mettre à part, de se distinguer, de dire « moi je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme cela, je ne suis pas comme les autres ». Non, non. Jésus veut apporter la paix pour donner de l'unité, pour donner de l'harmonie. Et pour permettre cela pleinement, il annonce son départ. Il annonce son union définitive au Père. Et c'est parce qu'il sera auprès du Père que cette paix sera définitive, accomplie sur la terre et dans le ciel. Et c'est bien de cette paix dont il s'agit lorsque nous arrivons pendant la messe à ce moment crucial de la communion, le temps de la communion, qui commence par le Notre Père et qui se poursuit par toute cette prière de l'unité en Église et l'unité de l'Église et du monde, et le geste de paix. Ce geste de paix que nous vivons un peu symboliquement en se serrant la main, parfois en se faisant la bise, ce geste de paix vient revêtir toute cette dimension qui relie le ciel et la terre et qui relie tous ceux qui nous sont proches, qui nous entourent auprès de nous et qui va jusqu'à l'extrémité du monde. C'est cette paix-là que nous nous partageons les uns et les autres pendant la messe. C'est pas la paix que l'on a en nous. C'est pas une simple salutation, tiens, pour faire joli. C'est vraiment cette paix qui vient de Dieu et qui couvre la totalité de l'univers visible et invisible. Ainsi, lorsque nous faisons cela, lorsque nous vivons cela d'une manière pleine, plénière, c'est Jésus le Christ qui se manifeste à nous et que nous pouvons alors recevoir entre nos mains pour le consommer, le manger et devenir lui, devenir Christ, manifestation au cœur du monde de cette vie qui se donne, qui se livre, pour que tout rayonne, pour que tout s'illumine, pour que tout s'éclaire, pour que tout éclate de joie face à cette victoire grâce au Christ, par le Christ, avec le Christ, dans le Christ.